VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 4 février 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Réunion du G5 Sahel au Burkina Faso, au moment où persistent les enlèvements et attaques de djihadistes présumés dans ce pays.
Début hier au Sénégal de la campagne pour la présidentielle du 24 février. 5 candidats, dont le président sortant Macky Sall, sont en lice.
Le nouveau président congolais, Félix Tshisekedi, est attendu en visite demain à Luanda, avant de se rendre à Nairobi, puis à Brazzaville.
En Égypte, des députés veulent amender la constitution pour permettre au président Abdel Fattah al-Sisi de briguer un troisième mandat après 2022.
Venezuela, le président américain Donald Trump n'exclut pas l'option militaire pour résoudre la crise politique dans ce pays.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Déco pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, les responsables du G5 Sahel sont réunis à Ouagadougou pour tenter de redynamiser leurs forces antiterroristes. Cette rencontre se tient à un moment où la situation sécuritaire est très préoccupante dans ce pays, où rien que ces derniers jours, une quinzaine de personnes ont été tuées dans des attaques. Le point avec notre correspondant sur place, Lamine Traoré.
Les responsables en charge de la sécurité et de l'économie des pays du G5 Sahel sont à Ouagadougou depuis la semaine dernière. Ils sont là en prélude au 5e sommet de l'organisation sous-régionale, dont le Burkina doit abriter la présidence pour un an. Un conseil des ministres du G5 Sahel s'est tenu hier toute la journée. Il s'est focalisé sur les questions liées au conflit communautaire et à la problématique de la scolarisation au sein de l'espace communautaire. Cette rencontre prépare aussi la 5e conférence des chefs d'État du G5, prévue demain mardi. Au cours du sommet de Ouagadougou, plusieurs questions liées au développement et à la sécurité seront abordées. Le statut des personnels spécifiques déployés dans les différents démembrements du G5 Sahel. Le suivi de la mobilisation des annonces de contribution pour la force conjointe et de son opérationnalisation. Ainsi que des sujets liés au développement durable et intégré au sein du G5 Sahel. Au moment où le président burkinabé s'apprête à prendre la présidence du G5, son pays reste confronté à la persistance des attaques terroristes. Samedi, 4 employés de la Croix-Rouge ont été enlevés dans le nord du pays. Hier dimanche, plusieurs attaques ont eu lieu dans le nord, mais aussi à l'ouest vers la frontière ivoirienne, où un poste de gendarmerie a été attaqué par des hommes armés. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Début hier au Sénégal de la campagne pour l'élection présidentielle du 24 février. Pendant 3 semaines, le président sortant, Macky Sall, et ses 4 adversaires vont sillonner le pays pour tenter de convaincre ses quelques 6 millions d'électeurs. Abdourahmane Dia.
La campagne a démarré timidement à Dakar, beaucoup de candidats ayant préféré commencer par d'autres régions du pays. Quelques affiches du président sortant étaient visibles à différents endroits de la capitale pour ce dimanche, premier jour de campagne, sans grande effervescence à Dakar. Macky Sall aura en face de lui l'ex-premier ministre Idrissa Seck, avec qui il a cheminé au sein du Parti démocratique sénégalais de l'ancien président Abdoulaye Wade. Issu lui aussi de la famille libérale, l'avocat Madi Kenyan, 65 ans, est toujours proche de la famille Wade, même s'il s'est attiré les foudres d'Abdoulaye Wade après sa candidature. Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition, se présente comme un candidat anti-système. Enfin, Issa Sall est le chef du Parti de l'Unité et du Rassemblement, proche d'un chef religieux de la confrérie Tidiane. Les candidatures de Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, et de Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, ont été rejetées.
L'accord de paix conclu samedi par le gouvernement de la République centrafricaine et les groupes armés qui contrôlent une bonne partie du pays sera d'abord paraphé mardi à Khartoum avant d'être signé ultérieurement à Bangui. C'est ce qu'a annoncé dimanche le gouvernement soudanais. Le point avec Jean-Roger Bion.
Aucun détail sur le contenu de l'accord obtenu n'a été encore diffusé. Le chef de la délégation gouvernementale de Centrafrique, Firmin Ngribada, a indiqué que le contenu sera rendu public après sa signature. L'accord obtenu samedi et annoncé en début d'après-midi par le gouvernement centrafricain devait être encore affiné selon Smail Shergi, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine qui a supervisé les négociations. Un des porte-parole des groupes armés, Igor Lamaka, avait lui aussi affirmé samedi soir qu'un compromis venait d'être trouvé au nom de l'unité, de la concorde et de la réconciliation nationale, ajoutant que c'est la paix qui a gagné. Les négociations de Khartoum lancées le 25 janvier à l'initiative de l'Union africaine et de l'ONU ont rassemblé les principaux chefs des groupes armés et une importante délégation gouvernementale. D'importants points de désaccord, en particulier sur la question de l'amnistie des responsables de crimes et d'exactions, avaient entraîné jeudi une suspension des négociations. Les groupes armés contrôlent la majorité du territoire centrafricain en dépit d'une présence onusienne forte de plus de 10 000 hommes.
Le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, doit effectuer cette semaine une première tournée à l'étranger qui le mènera en Angola, au Kenya et au Congo-Brazzaville, a-t-on appris dimanche dans son entourage. Monsieur Tshisekedi est attendu mardi à Luanda avant de se rendre à Nairobi puis à Brazzaville. Il s'agit de relancer les relations avec ces pays avant le sommet de l'Union africaine prévu mi-février, selon la même source.
Libreville, la capitale du Gabon, a un nouveau maire. Il s'agit de Léandre Nzoué. Issu du Parti démocratique gabonais, il succède à Rose Christiane Osukar-Aponda, récemment promu ministre d'État à la Défense lors du remaniement du gouvernement du 30 janvier dernier. Le PDG a remporté la plupart des sièges à l'issue des élections des bureaux des conseils municipaux et départementaux du pays. Précision de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
C'est par 96 voix contre 47 pour son adversaire que Léandre Nzoué, le candidat du Parti démocratique gabonais au pouvoir, l'emporte sur Jean Boniface Asselé. Le patron du Centre des libéraux réformateurs, parti membre de la majorité présidentielle, ne s'avoue pas pour autant vaincu après ce qu'il considère comme un acte politique dont la finalité était de dénoncer une mascarade électorale.
Nous sommes partis avec le PDG avec une charte qui consacrait notre alliance avec les partis de la majorité. Cette charte a été maintes fois piétinée. Moi, je n'ai pas accepté cela. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit aujourd'hui, puisqu'ils sont allés, ils ont présenté leur équipe sans qu'au préalable, ils nous aient avertis, qu'on ait eu à discuter.
Le PDG gagne l'élection des bureaux des conseils municipaux et départementaux dans la plupart des circonscriptions du pays, laissant très peu de place aux candidats de l'opposition dite modérée. À Libreville, le nouveau maire place déjà son mandat de 5 ans sous le signe du rassemblement.
Nous appelons au rassemblement de tous les PDG, des partis de la majorité, c'est-à-dire ceux qui nous ont soutenus, comme le RV, le SDG, mais les autres, le CLR, pour nous, aujourd'hui, c'est un adversaire. Les priorités, c'est la ville, de la ville. Je connais bien la mairie. Je pense que nous allons faire le maximum et les Gabonais seront satisfaits de notre action.
L'hôtel de ville de la capitale gabonaise fonctionnait sous l'ère Rose Christiane Osukar-Aponda avec un budget de plus de 20 milliards de francs CFA. Un budget jugé insuffisant pour l'équipe sortante qui laisse derrière elle plusieurs chantiers liés à l'assainissement de la ville, entre autres. Ismaël Obiangze, Libreville, pour la Voix de l'Amérique.
En Égypte, une centaine de députés ont déposé un projet d'amendement constitutionnel pour permettre au président Abdel Fattah al-Sissi de se représenter à la présidentielle au terme de son deuxième mandat de 4 ans en 2022. C'est ce qu'on a appris hier de sources parlementaires. Les élus souhaitent qu'il soit désormais de 2 fois 6 ans ce mandat, ce qui permettrait, selon eux, à M. Sissi de se représenter à la présidentielle encore 2 fois après 2022. M. Sissi, ancien chef de l'armée, a été élu une première fois en 2014 après la destitution de son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi l'année précédente. Il a été réélu en mars 2018 avec plus de 97% des voix.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a réaffirmé que le recours à l'armée américaine au Venezuela était toujours une option envisagée face à la crise politique qui secoue le pays. Le point avec Abdourahman Dia.
Interrogé par la chaîne américaine CBS, le président des États-Unis a d'abord expliqué ne pas vouloir se prononcer là-dessus. Mais une intervention militaire est certainement une option, a-t-il ensuite reconnu. Washington avait déjà clairement dit que toutes les options, y compris militaires, étaient sur la table. Washington a déjà pris de strictes sanctions économiques pour tenter de pousser le président Maduro vers la sortie et a notamment appelé l'armée à rejoindre le camp de Juan Guaido. Les États-Unis ont reconnu l'opposant comme président par intérim du Venezuela alors que l'ultimatum européen donné à Nicolas Maduro pour organiser de nouvelles élections a expiré hier. De son côté, le chef de l'État vénézuélien a de nouveau proposé des législatives anticipées en réponse à la pression de l'opposition et des Occidentaux. Il rejette l'ultimatum européen et accuse les États-Unis d'orchestrer un coup d'État. La première réunion du groupe de contact international constitué par l'Union européenne pour favoriser l'organisation d'une nouvelle présidentielle au Venezuela se tiendra le 7 février à Montevideo, en Uruguay.
Au Salvador, Nayib Bukele, qui est âgé de 37 ans, a remporté hier, dès le premier tour, avec plus de 53% des voix, l'élection à la présidence. La victoire de l'ancien maire de San Salvador a été reconnue par ses deux principaux adversaires, Carlos Calera, du parti de droite, Alliance Républicaine Nationale, l'ARENA, et Hugo Martinez, du parti Front Farabundo Parti de Libération Nationale, le FMLN, ex-guérilla.
Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
L'assureur camerounais GMC veut procéder à une nouvelle augmentation de son capital de 2 à 3 milliards de francs CFA. Le prix d'émission des actions à souscrire est fixé à 70 000 francs CFA. Selon Investir au Cameroun, la date d'ouverture de la souscription est fixée au lundi 18 février 2019. La date de clôture de la souscription et de la libération des actions est fixée au jeudi 18 avril 2019. L'indice de l'activité manufacturière de l'Afrique du Sud a décliné le mois dernier. Il a glissé de 50,7 en décembre 2018 à 49,9 en janvier 2019, passant juste en dessous de la barre des 50. Au centre de ce déclin figure le recul des mesures de la performance des usines, principalement les baisses des nouvelles commandes et de l'activité commerciale. La semaine dernière, l'or a connu son plus haut niveau depuis plus de 9 mois, atteignant 1326,57 $ l'once. Selon les analystes, cette nette progression s'explique par une réserve fédérale américaine, des facteurs de risque géopolitique et une faiblesse du dollar. Les annonces de la Banque centrale américaine ont eu pour conséquence une nette baisse du dollar. Une telle baisse a tendance à faire monter le prix des métaux précieux, car ceux-ci étant libellés en billets verts, un affaissement de ces derniers rend les métaux moins onéreux pour les investisseurs utilisant d'autres devises.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la CAN des moins de 20 ans, la suite hier de la première journée des matchs de poule.
Oui, et un seul match a eu lieu avec la victoire du Sénégal, finaliste des deux dernières éditions de cette CAN, 2-0 devant le Mali. Le second match entre le Burkina Faso et le Ghana, toujours dans ce groupe, n'a pas eu lieu suite à un défaut du système d'éclairage. En ouverture hier, le Nigeria, vainqueur 2-0 du Burundi, prend la tête du groupe A devant le Niger et l'Afrique du Sud qui se sont neutralisés.
Au niveau des clubs, les premiers matchs de la première journée en Coupe de la CAF étaient au programme.
Présent pour la première fois à ce niveau, les Congolais de l'AS Otoho ont concédé le nul à domicile 1-1 contre la Renaissance de Berkane dans le groupe A. Même score entre le tenant du titre, le Raja de Casablanca et Hassania Dagadi. Et puis tranquille victoire dans la poule B des Nigériens d'Enugu Rangers 2-0 face au Burkinabé de Salitas. C'est le club sfacien qui est en tête dans ce groupe en faveur de sa victoire 1-0 devant l'Étoile du Sahel.
Lisez les autres résultats de cette première journée.
Dans le groupe D, les Kenyans de Gomaya ont battu Zamalek 4-2 et il partage la première place avec Ousende, vainqueur du Petro Atlético de Luanda 2-1. Et puis dans le groupe C, victoire des Soudanais d'Al Hilal sur les Ghanais d'Asante Kotoko 1-0 et des Zambiens de Zesco United sur Nkana Davis 2-0.
En Ligue des Champions, la compétition en était à sa troisième journée.
Oui, et dans le groupe A, le Wydad de Casablanca et le Mamelodi Sundowns partagent la première place avec 6 points grâce à leur succès, respectivement 1-0 à l'Obista et 3-1 contre la SEC d'Abidjan. Orlando Pirates et l'Espérant de Tunis partagent aussi la tête du groupe B avec 5 points devant les Guinéens de Oroya classés 3e suite à leur victoire 1-0 à Harare contre Platinum Stars.
Dans le groupe C, le tout-puissant Mazembe s'est replacé.
Effectivement Idrissa, un groupe à 3 puisque le club égyptien d'Ismaili a été disqualifié. Un succès historique des Corbeaux à Lumumbashi 8-0 contre le club africain de Tunis. Un record depuis la création de la phase de poule en 1997. TP Timothée Mazembe est deuxième derrière Constantine qui était au repos. Et puis dans le groupe D, l'ASV Club accroché à domicile par les Algériens de Saoura 2-2, son deuxième à 3 points d'Alali du Caire, l'âge vainqueur des Tanzanais de Simba 5 buts à 0.
Cyclisme à présent, le championnat d'Afrique 2019 reporté.
La compétition qui devait avoir lieu du 2 au 5 février en Éthiopie est reportée dans une note adressée aux fédérations nationales. La Confédération africaine de cyclisme indique qu'une réunion de chefs d'État aux mêmes dates empêche la tenue de la compétition. Les nouvelles dates seront connues à l'issue du comité exécutif de l'UCI qui se tiendra le 10 mars prochain à Rome en Italie. Et puis du basketball pour terminer, la NBA et avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Memphis et New York 96 à 84, Boston et Oklahoma City 134 à 129, Toronto et les Clippers 121 à 103. En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février s'est donc ouverte officiellement hier. Notre correspondant sur place nous présente aujourd'hui un des cinq candidats en lice, El Hadj Sall. Cet universitaire dit s'être engagé dans la politique pour, je cite, « défendre les valeurs ». Coordonnateur national du Parti de l'Unité et du Rassemblement, il a réussi à décrocher 3 sièges de député lors de la première participation de son parti à une élection. Aujourd'hui candidat à la présidentielle, il propose aux Sénégalais un programme dénommé « Pur sang » qui s'articule autour de 100 points censés améliorer la vie des Sénégalais. Le portrait d'El Hadj Sall avec Seydina Abagué, notre correspondant à Dakar.
Âgé de 63 ans, El Hadj Sall, candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, est un diplômé en technologie de l'Université de Dakar. Celui qui a dirigé pendant quelques mois la section principale des télécommunications de la Société Nationale d'Électricité a aussi fait des études d'informatique aux États-Unis. Là-bas, il obtient un master et un doctorat avant de revenir au Sénégal pour travailler successivement dans l'administration, dans le système des Nations Unies et dans le secteur privé. Pour lui, il est important de servir le Sénégal.
Nous avons un devoir envers notre pays qui nous a vu naître, grandir et qui nous a tout donné.
En 1998, le coordonnateur national du PUR, Parti de l'Unité et du Rassemblement, crée l'Université du Sahel à Dakar. El Hadj Sall enseigne l'informatique générale, l'architecture informatique et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui consultant international dans le domaine du traitement informatique des élections, El Hadj Sall est l'auteur de plusieurs publications sur les systèmes informatiques et le rôle des technologies dans le renforcement de la démocratie. Tête de liste nationale du Parti de l'Unité et du Rassemblement PUR, lors des législatives de 2017, El Hadj Sall est élu député. À l'hémicycle, il dénonce certaines pratiques.
Tous les projets de loi qui viennent à l'Assemblée passent comme lettres à la poste. Même si certains de ces projets risquent de mettre le pays dans des situations inextricables. C'est le cas d'ailleurs du parrainage.
Avant cela, le mathématicien informaticien fut de 1996 à 2001 le premier vice-président du Conseil régional de Fatick, une région du centre du Sénégal frontalière avec la Gambie. Investi candidat à la présidentielle le 8 décembre 2018 par le Parti de l'Unité et du Rassemblement, El Hadj Sall ne compte pas faire le figurant. Il veut jouer les premiers rôles en s'appuyant sur la communauté des Moustachidines, une association religieuse qui constitue son principal atout, d'après l'analyste politique Babacar Diouf.
Ils sont très bien organisés et participent régulièrement au débat public. Comme aux élections législatives, ils ne souhaitent pas, à ce stade de l'élection, s'appuyer sur des forces politiques traditionnelles. Cette stratégie leur avait bien réussi aux dernières élections. Le PUR constitue une force montante de la politique et se positionne sur l'éthique et les valeurs qui sont mis en mal par les hommes politiques en général.
Communément appelé Issa Sall, le candidat du PUR est très attaché au slogan de son parti qui est la vérité, le respect de la constitution et des principes de la souveraineté nationale. Pour faire converger les Sénégalais vers sa personne, El Hadj Sall s'est fixé comme mission de faire décoller le Sénégal. Il a présenté son programme dénommé Pur Sang, articulé autour de 100 points qui concernent directement les populations sénégalaises. Des populations qu'il espère convaincre de voter pour lui à la présidentielle du 24 février 2019. À Dakar, Seydina Abagué pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, la liberté sous condition accordée vendredi dernier par la Cour pénale internationale, la CPI, à l'ancien président Laurent Gbagbo et à l'ex-chef de la jeunesse patriotique Charles Blé Goudé est diversement accueillie, nous dit d'Abidjan notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Dans les rues d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, ils sont nombreux à saluer la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé.
Ça fait un plaisir parce que c'est un Ivoirien qui a dirigé la Côte d'Ivoire.
Il faut qu'il revienne. Le pays, là, ça nous appartient à tous. Il faut qu'il revienne, qu'on construise le pays ensemble.
Il aurait fallu le libérer pour qu'il rentre. En fait, on veut l'empêcher d'arriver dans son pays. Et c'est ce qui est déplorable.
C'est une bonne chose pour la réconciliation. Mais il faut rester serein. Parce que le processus n'est pas encore fini. Il faut garder la sérénité, mais il faut aussi œuvrer pour que ça prenne fin et qu'on ne connaisse pas encore en Côte d'Ivoire ce genre de cueil-là. Près de 3500 personnes qui meurent pour une question d'élection, c'est vraiment à décrier.
Il y a aussi ceux qui désapprouvent la libération de ces deux hommes politiques.
Pour la libération de Gbagbo, moi je ne suis pas d'accord personnellement même. L'autre partie, demain, les gars se comportent comme s'ils n'ont rien fait. On dit on va faire la paix. Nous, on a pardonné pour tout ce qui nous est arrivé. On a tout laissé. Mais on dit la libération de Gbagbo, on voit leurs propos, on attend des trucs. Sincèrement, ça ne nous plaît pas. Donc ça vaut mieux que Gbagbo n'a qu'à rester là-bas. S'il vient là, ça sera autre chose.
Après tout ce qu'on a vécu, donc on ne peut pas se lever un bon jour quand on le libère. Donc nous, on n'est pas d'accord.
Même s'il a été libéré, même s'il reste à l'étranger, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, ici, c'est dangereux même pour la population.
Côté politique, le FPI, le Front Populaire Ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, tout en saluant la décision prise vendredi dernier par la CPI, regrette que la Cour n'ait pas prononcé la libération pure et simple des deux personnalités. Assoa Adou, secrétaire général du FPI.
Je suis très heureux, très content. Ils ont été détenus 8 ans pour rien. Et aujourd'hui, tous les Ivoiriens, que ce soit les partisans du président Laurent Gbagbo, les partisans de M. Bédié ou les partisans de M. Ouattara, tout le monde est content. Quelqu'un qui n'est pas coupable, qu'on dit qu'il est acquitté, pourquoi le maintient?
Pour Assoa Adou, la Côte d'Ivoire attend le retour de Laurent Gbagbo, l'un des maillons clés du processus de réconciliation.
Nous avons toujours dit que c'est le maillon manquant pour que la réconciliation soit faite. Maintenant qu'il est en route, et nous souhaitions que le responsable du RDR, le responsable du PDCI s'engage dans cette voie pour qu'il vienne au pays.
La classe politique ivoirienne dans son ensemble salue la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé et espère que cela contribuera à apaiser le climat politique qui reste quelque peu tendu à moins de 2 ans de la présidentielle d'octobre 2020. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Les marches organisées par la diaspora camerounaise en Occident contre la victoire du président Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre dernier sont de plus en plus critiquées par l'opinion publique au Cameroun. Le 26 janvier, des manifestants se réclamant de la brigade anti-Sardinard, un mouvement qui, selon le gouvernement, soutient l'opposant Maurice Kamto, ont saccagé les locaux des ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin. De Yaoundé, notre correspondant Jules Emmanuel Jules Ntap fait le point.
Ce week-end encore, une centaine de Camerounais ont manifesté contre le régime du président Paul Biya à Washington DC, Londres et Paris. À Yaoundé, l'opportunité de ces marches à l'appel de la brigade anti-Sardinard ne fait pas l'unanimité.
Ce que cette brigade appelle le hold-up électoral se comprend. L'idée derrière ce cri, c'est tellement marquer les consciences afin que désormais de telles situations ne se pérennisent.
Même si on n'est pas d'accord de certaines choses, c'est pas la meilleure façon de réagir.
Moi, je pense que cela sera un désordre.
Les Camerounais de la capitale politique s'insurgent surtout contre les auteurs des actes de vandalisme dans les ambassades du Cameroun en Allemagne et en France le 26 janvier dernier.
Paul Biya, ou bien le RDPC, n'a rien à voir avec l'ambassade du Cameroun qui représente le territoire camerounais.
L'ambassade est la représentation de notre État en France. Et entrer, c'est comme si on déclenchait une guerre contre la nation camerounaise.
En réplique aux auteurs des actes de vandalisme, le collectif 300 plus Diaspora, un mouvement de la société civile pro-régime, a prévu organiser le 1er février une marche à Yaoundé. Les autorités l'ont finalement annulée, mais les initiateurs gardent une dent contre les casseurs des ambassades du Cameroun à Berlin et à Paris. Serge Onguené fait partie du collectif 300 plus Diaspora.
Ce qu'ils
qu'ils ont fait est inadmissible, inacceptable, intolérable. Cela ne passera pas parce que le Cameroun n'appartient pas à un clic, soit dit d'un parti politique, notamment du MRC, avec un bras armé qui s'appelle la brigade anti-Sardinard. Le reste des Camerounais va devoir les défier dans ce projet de déstabilisation du Cameroun porté par un opposant qui n'est pas président de la République.
Selon les termes d'un communiqué rendu public par le gouvernement camerounais, je cite, les militants du MRC ont pris d'assaut les ambassades, détruit les symboles de l'État et les effigies du président de la République. Fin de citation. Accusation non fondée, affirme Maître Sylvain Sop, avocat de Maurice Kamto, président du MRC.
Ceux qui ont cru devoir prendre sur eux d'aller faire ce qu'ils ont fait en foulant aux pieds l'honneur du Cameroun dans les représentations diplomatiques, ce ne sont pas, d'après ce que j'ai cru comprendre pour ce Kamto, des militants du MRC. Il a dit qu'il ne les connaît pas.
Les incidents consécutifs aux marches des Camerounais de la diaspora en Occident ont valu la convocation de l'ambassadeur de France et du chargé d'affaires de l'Allemagne au Cameroun par le gouvernement. Yaoundé leur a transmis ses vives protestations contre l'absence d'une protection adéquate autour de ces ambassades lors des manifestations de la brigade anti-Sardinard. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
En Guinée, le gouvernement a lancé il y a quelques semaines à Conakry, la capitale, des opérations d'aménagement et d'entretien des voiries en état de dégradation très poussée, des routes envahies par endroits par des ordures. Pour protéger les routes et rendre la ville propre, plusieurs ministres et des habitants de Conakry organisent une fois par mois une journée d'assainissement. Mais certains Guinéens trouvent cette campagne peu efficace, d'autres proposent le recyclage des déchets. C'est le cas de Maria Mohamed, rencontrée par notre correspondant Zakaria Camara dans ce reportage.
Il n'est pas rare de voir Mariam et ses collègues marcher dans les quartiers de la haute banlieue de Conakry à la recherche des plastiques. Les mains dans les gants, les bottes pieds et les nez couverts, elles passent d'une poubelle à l'autre. Mariam Mohamed Keta, directrice générale de Guinédu Global Service.
Cette étape consiste à la collecte des plastiques. On a besoin de tout plastique pour les mettre dans le sac et les envoyer dans l'atelier.
Les trois femmes plastiques, comme on les appelle, reviennent à l'atelier, les sacs pleins. Il faut dépoussiérer les plastiques, les peser, ensuite les mettre dans une cuve posée sur le feu de bois. 20 kilos de plastique et 10 kilos de sable sont mélangés pour obtenir une matière noire qui sera ensuite coulée dans des moules. Chaque brique fabriquée est une réponse qu'apporte la directrice générale de Binedu Global Service aux nombreuses questions des Guinéens.
La recherche de mon premier emploi m'a mené à visiter bon nombre de rues de Conakry. Après analyse, j'ai constaté que le recyclage de ces plastiques peut répondre à plusieurs besoins, dont entre autres la protection de l'environnement, la fourniture des pavés et des briques aussi aux entreprises de construction et beaucoup d'autres.
Près de 500 000 tonnes de déchets plastiques sont produites par an en Guinée. Selon les chiffres officiels, ces déchets sont abandonnés à l'air libre sans aucune politique de collecte, de transport et de recyclage. Pour Ibrahima Camara, les pavés fabriqués par son entreprise pourraient être un soulagement pour les habitants de la capitale.
Le président irait souvent à Yokmala, disait la coca.
Le souci de tout le monde, y compris le président de la République, c'est comment résoudre le problème des ordures. Ce que nous faisons est l'une des solutions à ce problème. 9 mois après sa création, l'entreprise de Mariam peine à produire en grande quantité. Elle n'a pu produire et vendre qu'un peu plus de 500 mètres carrés. Malgré tout, Mariam n'entend pas s'arrêter en si bon chemin.
Nous avons besoin des machines pour vraiment nous soulager un peu. Parce qu'avec la mer, la manière dont nous faisons comme ça manuellement, c'est un peu fatigant. C'est un peu fatigant. Mais si nous avons aussi des machines avec nous, qui font le broyage et puis encore le mélange, ce serait un peu possible, oui. Vraiment, ça nous aidera.
À Conakry, on produit par jour plus de 1200 tonnes d'ordures de toute nature, dont les déchets plastiques. Une partie de ces déchets est souvent drainée vers la mer par manque d'entreprises en charge de collecter les ordures dans les communes urbaines.
Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith, merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.